Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 17h, temps universel. Nouvelle violence au Burundi. 4 morts hier dans le quartier de Moussaka à Bujumbura, nous signale le correspondant de VOA Afrique sur place. Les assassinats sont presque quotidiens. Nicolas Pinault.
Oui, les 4 victimes ont été assassinées par balles. Ces personnes sont soupçonnées de travailler avec les services de renseignement, selon les témoignages des habitants du quartier. Depuis lundi, toujours dans Moussaka, 8 personnes, dont 4 policiers, ont été blessées par des grenades lancées par des assaillants qui étaient à moto. Depuis plusieurs jours, on assiste à une recrudescence de la violence dans certains quartiers de la capitale. Ces derniers développements n'empêchent pas le pouvoir burundais de préparer la cérémonie d'investiture du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Selon la présidence burundaise, l'événement doit avoir lieu d'ici mercredi prochain, le 26 août, soit la date légale de la fin du second mandat. Pour l'heure, aucun détail n'a filtré sur le déroulement de la cérémonie. Cette insécurité croissante au Burundi, il en sera certainement question au cours de la tournée de l'envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs, Thomas Perriello. Le diplomate américain est de retour dans la région, mais ne se rendra pas à Bujumbura. Il ira au Rwanda, en Tanzanie, en Angola et en République démocratique du Congo.
Et le constat, c'est que le Burundi est pratiquement en situation de guerre, un environnement qui échappe à tout contrôle. VOA Afrique a joint à Bujumbura le directeur général de la radio-télévision Renaissance, Innocent Mouzi.
Moi, j'ai l'impression que tous ces pays, ces organisations ont compris depuis bien longtemps les risques que la situation politique burundaise comportait. Les différentes prises de position, les différentes initiatives qu'ils ont essayé de prendre montrent très clairement qu'ils ont mesuré assez vite l'escalade qui pouvait résulter de cette crise dans laquelle nous nous trouvons depuis plusieurs mois. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment concrètement faire pour arrêter cette escalade-là. Que peuvent faire les autorités burundaises? Que peut faire la société burundaise? Que peuvent faire les voisins? Que peut faire vraiment la communauté internationale? Puisque maintenant, on est dans une situation pratiquement de guerre. Beaucoup de gens ont dit depuis bien longtemps que si ces violences se poursuivaient, la guerre serait inévitable. On est pratiquement dans une situation de guerre maintenant. Est-ce qu'il faut vraiment attendre qu'il y ait des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait plus que ce qu'il y a déjà eu comme morts, comme prisonniers, comme torturés, pour qu'il y ait quelque part des actions plus concrètes que ça? Je ne sais pas. J'ai comme l'impression que les gens se comportent comme s'ils ne savaient plus quoi faire. Toutes les journées, toutes les nuits, il n'y en a pas qui passent sans que des gens soient enlevés, soient tués, sans qu'on entende des coups de feu pendant des heures, etc. Donc on est déjà dedans.
Innocent Mouzi, joint dans la capitale burundaise par Eric Manirakiza. En Côte d'Ivoire, une faction du Front populaire ivoirien, le FPI, le parti de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, a appelé au boycott de l'élection présidentielle d'octobre. Ces frondeurs, désormais associés à la Coalition nationale pour le changement, dénoncent une mascarade aux conséquences imprévisibles. On écoute les raisons de cet appel au boycott avec Kone Boubacar, leur porte-parole.
Nous disons que les élections telle qu'elle se présente dans les préparatifs, dans les facteurs techniques de sa préparation, ne peuvent pas avoir lieu. Et puisqu'elles ne peuvent pas avoir lieu, il n'est pas utile de s'associer aux préparatifs de quelque chose qui ne peut que produire de la violence. Il est bon de s'abstenir, de s'y mêler.
Sur quoi chope les problèmes avec le parti au pouvoir?
Alors, j'allais dire tout. Tout nous oppose, en ce sens que nous avons le sentiment très net que tout est mis en œuvre pour que l'élection n'ait pas lieu. Par exemple, l'insécurité est générale à travers tout le pays. Le parti au pouvoir a armé des bandes pour menacer tous ceux qui sont d'opinion opposée. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que nous avons affaire à une commission électorale qui est complètement partisane, dont les gestionnaires sont tous des partisans du président en exercice. En troisième lieu, le Conseil constitutionnel juge des élections est truffé de partisans du président de la République. Enfin, il y a tous les facteurs qui concourent à la réconciliation nationale ne sont pas rassemblés. Près de 700 de nos partisans en prison, des dizaines de milliers de nos partisans sont en exil parce que craignant pour leur vie. Comment voulez-vous que des élections puissent se tenir dans ces conditions? En regardant tous ces facteurs, nous pensons qu'il n'est pas possible de participer à des élections saines, ouvertes et démocratiques.
Kone Boubacar, porte-parole des dissidents du FPI, joint par moi-même donc en Côte d'Ivoire à Abidjan. Le célèbre tambour-major sénégalais Doudou Ndiaye Kumba Rose est décédé ce mercredi à l'âge de 85 ans à Dakar à la suite d'un malaise, signalent les médias. De son vrai nom, Mamadou Ndiaye, Doudou Ndiaye Kumba Rose a joué de son tam-tam presque partout au monde et sa faculté à jouer sur tous les tons lui avait attiré le surnom de mathématicien des rythmes. En Guinée-Bissau, l'ancien chef d'état-major général des forces armées, le contre-amiral José Zamora Induta, est interdit de quitter le pays. Une décision de justice annoncée aujourd'hui par le procureur militaire Noua Mankali et notre correspondant à Bissau.
L'ancien chef d'état-major général des forces armées, le contre-amiral José Zamora Induta, a l'obligation de rester dans le pays et son passeport a été confisqué. À cet effet, des informations ont été transmises aux autorités frontalières comme quoi il ne peut pas quitter le pays, a informé une source de la justice militaire. Il est également connu que l'amiral et ancien chef de l'armée bissau-guinéenne se trouve dans sa maison à Bissau, en résidence surveillée non déclarée quelques jours après son arrivée dans le pays. On rappelle qu'Induta avait été appelé le 4 août dernier par le procureur de la justice militaire en tant que déclarant, mais le lendemain, il était déjà considéré comme suspect dans un processus connu sous le nom du cas du 21 octobre 2012 sur la tentative présumée d'un coup d'État dans lequel le général Induta a été nommé par l'un de ses compagnons capturés pendant l'opération, le capitaine Panson Tiaman, comme chef de file de l'action qui avait abouti à la mort de 5 soldats dans la base aérienne de Bissalanka à Bissau. On rappelle que lors de la célébration de la fête de l'indépendance de l'année dernière, tous les inculpés de ce cas du 21 octobre ont été pardonnés par le président José Mario Vaz. Noua Mankali, Bissau, VOA Afrique.
La Soudan du Sud, la facilitation tape du poing sur la table. L'accord visant à mettre fin à 20 mois de guerre civile dans le pays n'est plus négociable et il ne reste plus qu'à le signer, a affirmé hier, mardi, le chef de la médiation est-africaine, Seyoum Mersin, à Addis Abeba, en Éthiopie. L'ancien vice-président Riek Machar et chef des rebelles qui affrontent l'armée sud-soudanaise depuis décembre 2013 a signé lundi le document, à l'inverse du président Salva Kiir qui s'est vu accorder le délai de 15 jours qu'il réclamait. Le gouvernement sud-soudanais a ensuite estimé ne pas pouvoir accepter cet accord qualifié de capitulation, faisant naître des doutes sur une future signature.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La Turquie a été la cible de nouvelles attaques ce mercredi. Ces attaques ont eu lieu au cœur d'Istanbul et dans le sud-est du pays. 8 soldats sont morts selon l'armée dans l'explosion d'une bombe dans le sud-est du pays. Et à Istanbul même, des coups de feu et l'explosion d'une bombe ont été entendus devant le palais ottoman où siègent les bureaux du Premier ministre, Lionel Gaïma.
Il semblerait pour l'heure que ces attaques d'Istanbul n'aient fait ni morts ni blessés. D'après les médias locaux, la police a interpellé 2 assaillants. Il y a un peu plus d'une semaine, Istanbul et des villes du sud-est du pays étaient déjà la cible d'attentats. 6 membres de forces de sécurité avaient été tués. L'attaque contre le consulat américain d'Istanbul avait été revendiquée par un groupe d'extrême gauche. Celle qui avait visé un poste de police à Sultanbeyli était l'œuvre des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Les tensions entre les rebelles kurdes et Ankara sont à leur comble dans le sud-est du pays depuis l'offensive militaire turque lancée le 24 juillet. L'attentat de Suruç qui a tué 33 jeunes proches de la cause kurde a été attribué à l'organisation de l'État islamique. La Turquie avait alors lancé une guerre contre le terrorisme sur 2 fronts, ciblant à la fois des djihadistes de l'État islamique et les rebelles du PKK.
La Thaïlande a émis aujourd'hui un mandat d'arrêt contre un étranger soupçonné d'avoir perpétré l'attentat à la bombe à Bangkok qui a fait 20 morts lundi et diffusé le portrait robot de cet homme qui ferait partie d'un réseau. Jacques Aristide.
Sur le portrait, l'homme, plutôt jeune, a une chevelure brune très fournie et porte des lunettes noires. Il serait originaire d'Europe ou du Moyen-Orient. Le suspect a été identifié sur les images des caméras de vidéosurveillance en train de déposer un sac à dos à l'endroit où la bombe a explosé. Il est recherché pour assassinat et d'association de malfaiteurs. Les autorités thaïlandaises offrent une récompense d'1 million de baht, un peu plus de $28 000, pour toute information menant à son arrestation. Les enquêteurs estiment que l'homme avait des complices et qu'il ferait partie d'un réseau. Au moins 2 autres personnes pourraient être impliquées dans l'attaque, d'après eux. Si aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'attentat, le gouvernement thaïlandais semble avoir exclu la possibilité qu'il s'agisse d'une action des insurgés musulmans du sud du pays.
Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On termine donc avec cette nouvelle triste en provenance du Sénégal, le décès du célèbre tambour major Doudou Ndiaye Rose. Il était classé trésor humain par l'UNESCO. Il est mort aujourd'hui à Dakar. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Bion à ce micro. Prochain rendez-vous de l'info dans 20 minutes seulement. Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.